La philosophie. Une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Françoise. Nous nous retrouvons pour la seconde émission que nous disent les rêves, que nous illustrerons également par une musique de Debussy. Et vous aviez terminé, Françoise, sur le risque de charlatanisme. Et vous voulez reprendre un peu là-dessus.
Oui. Alors, d'une part, nous avons lu un premier texte qui montrait comment le rêve, dont on peut imaginer et dont on imagine dans bien des civilisations qu'il a une valeur oraculaire, nous avons vu avec un passage d'Homère que Zeus peut tromper par le rêve. Il trompe Agamemnon, comme s'il y avait une possibilité pour les dieux d'avoir une pratique perverse du rêve pour égarer les mortels, en particulier ici Agamemnon. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai évoqué la fonction et la valeur dans la civilisation grecque et romaine des devins qui, justement, avaient pour fonction d'analyser les rêves pour montrer aux rêveurs, il y a toujours un tiers dans la lecture du rêve, dans le déchiffrage du rêve, donc ces devins montraient par le témoignage de leur interprétation aux rêveurs, qu'ils devaient réfléchir à l'action qui permettait de dénouer ce futur qui peut être ou terrible ou au contraire heureux. Puisque le futur a deux possibilités, et c'est très simple, tout ça est très dichotomique. Le rêve peut aussi bien prévenir un moment heureux, une situation heureuse, par exemple un mariage, mais il peut aussi prédestiner à la mort. Et alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Si effectivement le rêve, et il y en a de nombreux exemples chez Artemidore, qu'est-ce à dire si le rêve, évidemment, vous apprend votre mort future? Mais il suffit de s'y préparer. La chose n'est pas dite comme telle, mais la préparation à la mort est aussi une manière de réagir, si j'ose dire positivement, à cette annonce funeste.
Alors, vous appelez ce rêve un cauchemar ou pas?
Non, pas du tout.
Non,
non, non, il ne s'agit pas de cauchemar. Non, non. Mmh. Non, non, nous ne sommes pas encore dans le monde du cauchemar. Alors, ce qui est intéressant chez Artemidore, c'est qu'il écrit un livre. Il justifie tous les rêves qu'il va donner en exemple, il les justifie par l'expérience. Alors lui-même, disais-je, était, dans la première émission, était un devin qui avait une certaine célébrité, qui était très connu pour la qualité de ses propositions divinatoires, et en même temps, il essaie de montrer à quel point cet art est un art nécessaire, et surtout, combien cet art qu'il a forgé au cours du temps a été pensé à partir d'une expérience et à partir de la récurrence d'expérience. Mmh. Autrement dit, le rêve, ou plutôt l'analyse du rêve, relève pour Artemidore, d'un exercice expérimental. L'analyse du rêve relève d'une pratique qui est fondée sur la multiplicité des rêves effectifs et les liens de ressemblance entre eux. Donc nous avons une vision, je dirais, qui relève presque de la philosophie empirique du rêve. Et c'est comme ça qu'il se défend contre les accusations qui ne sont pas portées contre lui, mais contre les accusations qui pourraient être portées de dire n'importe quoi. Ouais. Parce que le soupçon est toujours là. Et d'ailleurs, des exemples sont donnés, par exemple, chez Cicéron. Le même rêve peut être interprété de manière contradictoire. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour Artemidore, la lecture du rêve dépend de la condition des rêveurs. Alors, suivant qu'on est homme ou femme, qu'on est maître ou esclave, qu'on est en état de maladie ou au contraire de santé, l'interprétation ne sera pas la même. Donc il y a toujours une considération de la subjectivité du rêveur dans cette tentative interprétative. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous ne sommes pas avec Artémidore dans ce qu'on a appelé plus tard la clé des rêves, la clé des songes. Hein. Mmh. Vous avez eu beaucoup de petits opuscules, la clé des songes, qui vous donnait une espèce de lecture symbolique, universelle, des rêves que vous faites. Pas ça du tout. Hein. Pas ça du tout. Chaque rêve doit être interprété dans un contexte qui est le contexte d'une psychologie subjective. Et ça, c'est très important, parce que d'une certaine manière, il y a ça chez Freud. Chez Freud. Toujours l'idée que le rêve n'est pas... Le rêve n'est pas un songe où toutes les clés seraient, disponibles. Ouais. Non, chaque fois, il faut interroger.
Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, après un rêve, n'est pas capable, en fait, de l'analyser.
Alors, la question, c'est celle du tiers. C'est-à-dire, en effet, tout se passe comme si le rêve ne pouvait être véritablement déchiffré, décelé, son contenu dévoilé que par un tiers. Alors, vous allez me dire, chez Freud, le psychanalyste est un tiers, mais pas tout à fait, puisque justement, la technique freudienne consiste à faire du psychanalyste celui qui interroge et recueille le rêveur, qu'on appelle, en termes modernes, l'analysant.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est le rêveur lui-même qui analyse les éléments de son rêve en faisant appel aux idées parfois incongrues qui lui viennent quand il expose tel ou tel fragment de son rêve.
Ouais.
Donc il y a toujours la présence d'un tiers, même si ce tiers, pour les rêveurs, se dédouble, puisqu'il y a le psychanalyste et l'analysant dans la scène psychanalytique freudienne. Bon, je vais revenir à autre chose. Alors, cette suspicion tout de même, sans laquelle le rêve peut être fallacieux, est très nettement marqué, disais-je, je crois déjà l'avoir dit, chez des philosophes comme Aristote ou comme Cicéron, Cicéron se recommandant de la philosophie de la Nouvelle Académie, c'est-à-dire qu'il y a bien des textes philosophiques au sens propre chez Cicéron. Alors, Aristote, voilà ce qu'il dit. En ce qui concerne la divination qui se produit durant les périodes de sommeil et que l'on dit provenir des rêves, il n'est aisé ni de la dédaigner, ni d'y croire. Donc, on est toujours dans une espèce d'incertitude. Est-ce qu'on doit dédaigner, les traductions par les interprètes du rêve, des rêves, ou au contraire, est-ce qu'on doit dédaigner ce qu'on appelle aussi l'oniromancie, la mantique, la divination par les rêves. Alors, cette hésitation est vite trahi par Aristote lui-même, puisqu'il propose une vision rationaliste du rêve, en disant que le rêve brasse en quelque sorte les éléments de la vie diurne. Hein, et quand nous rêvons, nous savons bien que le matériau du rêve, il est emprunté souvent aux journées précédentes. Ce que dit Freud. Alors Freud n'en disconvient pas du tout, au contraire, il insiste sur ce point. Mais en tout cas, ce qui est clair pour Aristote, c'est que les rêves n'ont pas de valeur divinatoire et qu'en particulier, les signes qui peuvent être présumés comme divinatoires, si véritablement ils se réalisent dans le futur, ils se réalisent par pure coïncidence. Et Freud dira aussi qu'après tout, on donne une valeur, divinatoire au rêve qu'on a vécu, on lui donne une valeur après coup. C'est-à-dire que c'est bien en se souvenant du rêve qu'on, et après une certaine expérience, qu'on se dit « Ah oui, mon rêve était prémonitoire ». Donc il y a bien un retour du rêve qui lui redonne une valeur prémonitoire. Et puis Aristote a une réflexion assez amusante. Les dieux, évidemment, les dieux ne sont pas du tout inspirateurs des rêves. Ce serait tout à fait absurde que les dieux s'intéressent au psychisme individuel. Et puis Aristote d'ajouter « Les animaux rêvent ». Alors peut-on imaginer que les dieux infligent des rêves aux animaux? Les animaux rêvent. Car pour Aristote, l'homme est d'abord un animal doué de logos, de parole. Mais c'est un animal. Nous rêvons, si vous voulez, en tant que vivants, avec justement la fantasmatique liée à nos corps.
Et si on ne rêve pas?
Et si
on ne rêve pas?
Mais on rêve. On rêve toujours.
Donc, mais si on ne rêve pas, on meurt. Rêves.
Ah, attendez. Bon, premièrement, on rêve toujours. Nous, les humains, nous rêvons, comme certains animaux. En tout cas, pour nos animaux domestiques, c'est indéniable. Hein. Nous rêvons. Et quand nous pensons ne pas avoir rêvé, c'est que nous avons oublié le rêve. Oublié. Et Freud nous dira qu'il y a effectivement une censure, une résistance. Il y a une résistance liée à la censure qui fait que nous ne pouvons pas nous souvenir de ces rêves dans la mesure où ils impliquent, et j'y viendrai plus tard, où ils impliquent eh bien, un désir inconscient, qui a quelque chose d'innommable. La meilleure preuve, c'est qu'il est refoulé. La thèse, c'est que le rêve lève, même sous à partir de dispositifs de masques, enfin, le rêve lève le jour sur les désirs les plus profonds. Donc, oui, mais désirs inconscients.
Je parlais tout à l'heure des neurologues qui n'ont pas du tout la même vision du rêve. Et si un patient dans les conditions de ne pas rêver, il meurt. Le rêve est indispensable.
Oui,
à la
vie. Il y a une torture qui consiste à empêcher les gens de dormir. Mmh. Et ça rend fou. Bon, je ferme la parenthèse. La neurologie n'étant pas du tout mon domaine.
Oui,
non,
mais c'est association
du rêve.
Oui, bien
sûr, l'association, elle est très juste. Oui, oui.
Alors sur Radio Alliance Plus, comme dans la première émission que nous disent les rêves, nous avons écouté du Debussy et Françoise, vous reprenez votre analyse, toujours avec Cicéron, je crois.
Eh bien, Cicéron, dans son livre de la divination, propose, contrairement son frère, une violente mise en question de la valeur oraculaire du rêve. et avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup d'ironie, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'ironie. Je dirais presque que c'est un texte voltairien. Alors, je vous lis quelques passages. Il faudrait revenir sur toute la démonstration qui montre à quel point les rêves sont illusoires. Alors, je vous lis parce que c'est je dis, l'aspect voltairien. Voici désormais l'enjeu du débat. De ces deux hypothèses, laquelle est la plus probable ? Les voici. Les dieux immortels, en toute chose éminemment supérieure, courent visiter les lits et même les grabats de tous les mortels, où qu'ils soient, pour jeter en eux, chaque fois qu'ils en ont vu un qui ronfle, des visions bien tortueuses et obscures qui les réveillent d'épouvante et les précipitent au matin chez l'interprète. Ou bien, par un effet de la nature, l'âme sans cesse en mouvement a l'impression de voir en dormant ce qu'elle a vu éveillé. Est-il plus digne de la philosophie d'interpréter ces faits en recourant à une superstition de sorcière ou bien à l'explication qu'offre la nature ?
Oui, en effet.
Et oui, alors je ne pourrais pas, et ce serait tout de même, c'est un peu dommage, reprendre toutes les analyses où Cicéron ironise sur la superstition parce qu'il parle évidemment des possibilités d'interprétation des rêves comme relevant de la superstition. Et voici ce qu'il dit. Que l'on chasse donc dans la divination par les rêves tout comme les autres. À vrai dire, la superstition répandue parmi tous les peuples a opprimé presque tous les esprits et s'est emparée de la faiblesse des hommes. Un peu plus loin. Je veux qu'on le comprenne bien. En supprimant la superstition, on ne supprime pas la religion. La défense des institutions des ancêtres et la sauvegarde des rites et des cérémonies incombent aux sages, etc., etc. D'autre part, la beauté de l'univers, la régularité des phénomènes célestes force à reconnaître l'existence d'une nature toute-puissante et éternelle, méritant le respect et l'admiration du genre humain. Donc, détruire la superstition, je dis c'est encore du Voltaire, enfin Voltaire après coup, quoi. Dénoncer la superstition n'est pas trahir la religion. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine vision du divin, nous le voyons ici. Le divin, c'est le divin au singulier ou le dieu au singulier, c'est celui qui est garant de l'ordre cosmique et de la valeur morale aussi des comportements. C'est bien au nom d'une vision du divin pur, que la lutte contre la superstition peut s'effectuer.
Et Cicéron était très suivi dans ces...
Non, simplement, il y a toujours eu. Bon, il y a toujours eu, nous l'avons vu avec Homère, il y a toujours eu une contestation de cette valeur divinatoire du rêve. Enfin, je veux dire, tout le monde ne se prend pas dans les raies de la superstition. Et je pense que c'est vrai partout. Alors, le christianisme a mis entre parenthèses les rêves, et du reste, j'ai regardé le texte dans, chez Dante, dans l'enfer de Dante, il y a des loges qui sont consacrées aux devins. Alors, pourquoi ? Parce que les devins prétendent connaître l'avenir, seul Dieu est maître du temps. C'est ça l'argument chrétien contre la divination.
Alors, si Cicéron parle de superstition, pourquoi Freud a tant voulu établir une méthode sur l'interprétation des rêves ?
Oui, mais alors justement, Freud dénonce la possibilité pour le rêve d'avoir une valeur divinatoire. Ce sont les dernières lignes de l'interprétation des rêves de 1900. Les textes que je vais vous lire sont tirés d'un petit livre qui condense ces thèses, qui s'appelle « Sur le rêve », qui est tout à fait disponible en livre de poche et qui est difficile à lire, même s'il est conçu. Et voilà comment Freud termine l'interprétation des rêves. Donc le grand livre de 1900, le « Traumdeutung ». Et la valeur du rêve pour la connaissance de l'avenir, il ne peut en être question. On aimerait plutôt dire, entre parenthèses, que le rêve vaut pour la connaissance du passé. Car le rêve est issu du passé dans tous les sens. Certes, la vieille croyance que le rêve nous indique l'avenir n'est pas totalement dénuée de valeur de vérité, dans la mesure où le rêve nous représente un désir comme satisfait. Alors, je vais y venir tout de suite. Il nous mène vers l'avenir. D'une certaine manière, Artémidore disait cela aussi. Mais à cet avenir que le rêveur prend pour présent, l'indestructible désir donnera un visage à l'image exacte du passé. Le texte est assez retors, mais je voudrais simplement en venir alors, au texte dont je disais qu'il était le plus concis et qui a été écrit justement après l'interprétation du rêve. Donc Freud a, comme d'ailleurs l'a fait Artemidore, a classé les rêves. Et le rêve le plus simple, celui des enfants. Les enfants rêvent ou hallucinent la réalisation d'un désir. Et il donne des exemples, bon, je n'ai pas le temps de les exposer. Mais avant de quitter les rêves infantiles, qui sont des accomplissements de désirs sans voile, nous ne devons pas omettre de mentionner un caractère essentiel du rêve qu'on a relevé depuis longtemps et qui apparaît précisément le plus purement dans ce groupe. Je peux substituer à chacun des rêves une phrase exprimant un désir. Ah, si seulement. Le rêve réalise de manière hallucinatoire un vœu. Ah, si seulement. Alors, on peut traduire aussi l'idée que le rêve est la réalisation d'un désir par le rêve est la réalisation d'un vœu, wunsch. Ça engage quand même la parole. Hein. Alors voilà, il y a des exemples qui étaient pris justement au rêve d'enfant. Oh, si seulement la navigation sur le lac avait duré plus longtemps. Bon, c'est un gamin qui aurait aimé justement que sa promenade en bateau sur un lac de Suisse dure. Ah, si seulement j'étais déjà lavé et habillé pour faire une excursion. Ah, si seulement j'avais eu le droit de conserver les cerises au lieu de les donner à mon oncle. Alors, c'est un enfant qui a un panier de cerises et puis il a eu des maux de ventre. On lui a dit, tu les donnes à ton oncle. Voilà. Mais le rêve donne plus que cet optatif. Il montre le désir comme déjà accompli. Il figure, hein, la visibilité, la vision. Il figure cet accomplissement comme réel et présent. Et le matériel de la figuration onirique est constitué avant tout, quoique pas exclusivement, de situations et d'images sensorielles. Le plus souvent visuelles. Une sorte de transformation qu'on a le droit de désigner du nom de travail du rêve ne fait donc pas non plus complètement défaut à ce groupe. Une pensée qui se formule à l'optatif, ainsi seulement, hein, est substituée à une vision au présent. Voilà la réalisation. Et le rêve est censé réaliser un désir, mais un désir inconscient. Alors, si le désir est inconscient, eh bien, cela suppose que le rêve, une fois l'état de sommeil levant ce que Freud appelle la censure du rêve, eh bien, une fois cette censure du rêve levée, tout se passe comme si, au lieu de jaillir, je dirais, spontanément et sans masque, les intentions désirante ou les vœux du rêve, tout se passe comme si, et tout se passe en effet comme si, il fallait que le rêve, pour apparaître sans, comment dire, sans se révéler complètement. Parce que dans ses désirs ou dans ses vœux, il y a de l'indécence. Eh bien, le rêve doit passer par des moyens de masque, de masquage, de dissimulation, pardon, et Freud établit quelles sont ces méthodes, je dirais, psychiques de dissimulation du caractère toujours originellement scandaleux du désir inconscient. Alors c'est évidemment la mise en image, la figuration, mais ce sont des phénomènes de condensation et de déplacement. Alors, je n'ai pas le temps de les établir, et c'est tout à fait intéressant de savoir que le rêve suppose un travail. Il y a un travail du rêve, comme il y a un autre travail qui est celui de l'analysant, qui va, élément par élément du rêve, essayer de retrouver, grâce encore une fois à des idées que Freud appelle des idées indécentes, la signification profonde de chaque fragment du rêve. Chaque fragment du rêve éveillant, réveillant quelque chose comme des scènes de désir originelles. Mais Freud nous dit que le rêve en tant que tel ne peut pas être interprété en totalité. Il y a toujours quelque chose d'irréductible dans le rêve, et Freud a l'image de l'ombilique du rêve. Il y a un ombilique du rêve. Il y a toujours une résistance fondamentale du rêve à manifester nos désirs propres.
En fait, en introduction, vous avez dit le rêve est énigmatique et il
le rêve
restera toujours.
Alors malgré toutes les procédures de l'analyse, parce que il s'agit par la psychanalyse de défaire en quelque sorte la construction même du rêve. L'échafaudage de dissimulation du rêve. C'est intéressant parce que l'analyse est l'inverse.
Alors j'ai une question pour finir. Faut-il noter chaque jour son rêve?
On peut. C'est ce que faisait Freud. C'est-à-dire comme Artemidore accumule des rêves pour essayer d'en trouver la pertinence. Freud aussi.
Enfin, faut-il noter ses rêves dont on se souvient, puisqu'on ne se souvient pas du tout?
Oui. Mais il y a des moyens de se remémorer le rêve aussi.
Merci Françoise, et à bientôt pour une prochaine émission.